Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Les visionnaires et les rêveurs ». Dans les derniers jours, lorsqu'on lit ça, dans le message de Pierre, commence en disant « Dans les derniers jours », il faut comprendre que théologiquement, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans ces jours-là. Théologiquement, on va déterminer cette période de temps-là entre la période de temps où Jésus est remonté vers son Père, après la résurrection, le Saint-Esprit arrive, Jésus retourne vers son Père, mais les derniers jours sont la période entre ce moment-là et jusqu'au retour de Jésus, quand Jésus va revenir. Donc, nous sommes dans les derniers jours. Pierre, lorsqu'il prêche ce message-là, théologiquement, il est dans les derniers jours. Et Pierre va déclarer que Dieu, dans cette période-là, va déverser son esprit sur tout être humain, sur les fils et les filles, sur les serviteurs, sur les servantes, sur les plus jeunes et les moins jeunes. Et Pierre est littéralement en train de citer à ce moment-là une parole prophétique que le prophète Joël avait fait plusieurs centaines d'années avant dans le livre de Joël. Une des choses qui m'a vraiment frappé dans ce que Pierre a mentionné, c'est que Dieu voulait se révéler et utiliser autant les plus jeunes que les moins jeunes. Dans ça, je ne donnerai pas d'âge ce matin. Faites attention à ça, je ne donnerai pas d'âge. Dieu veut se servir des jeunes. Pierre va dire que Dieu va déverser son esprit sur les jeunes et les jeunes vont avoir des visions, mais il va aussi déverser son esprit sur les vieillards. Ça, c'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi. Sur les vieillards, et ils auront des rêves. Les visionnaires et les rêveurs, ensemble pour bâtir le royaume. Dans ce message-là, Pierre brise énormément de barrières à l'époque. Ce message-là, nous, on lit aujourd'hui un peu détaché culturellement. On n'est pas dans leur culture, on ne comprend pas toutes les subtilités. Mais en 5 versets, Pierre vient briser plusieurs barrières pour ceux qui l'entendent. Il vient premièrement briser des barrières culturelles. Lorsque Pierre va mentionner que Dieu veut déverser son esprit sur les fils et les filles, sur les hommes et les femmes. Alors, tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, c'est la parole de Dieu, on croit. Que Dieu déverse son esprit, Dieu se sert autant des hommes que des femmes. Je m'attendais à amener un féminin un petit peu plus appuyé, mais c'est correct, on travaille, ça va quelque part. Brise cette barrière culturelle où à l'époque, les hommes et les femmes, c'était vraiment deux catégories, mais Pierre, rempli de l'esprit, prêche et dit non, lorsque Dieu va déverser son esprit, c'est autant pour les fils que pour les filles, et les deux vont être utilisés par Dieu. Pierre vient aussi briser les barrières religieuses parce que lorsque Pierre va mentionner que Dieu va déverser son esprit, pas juste sur les hommes religieux ou l'élite religieuse, bien Pierre va dire au verset 17, « Je vais déverser mon esprit sur tout être humain. » Alors, il n'y a plus l'élite religieuse, les religieux, ceux qui sont les leaders dans l'Église sont là, eux ont l'Esprit de Dieu, la main de Dieu sur eux, mais pas le peuple, pas les gens. Pierre est en train de dire non, dans les derniers jours, quand Dieu va déverser son Esprit, ça va être sur tout le monde. Il n'y a plus de hiérarchie de pasteur, pas pasteur. Il y en a-t-il qui sont des leaders religieux ou pas? Dieu va déverser son Esprit sur toi, si tu le veux, ce matin. Dieu va déverser son Esprit sur tout le monde. Il n'y a plus de barrière, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Pierre va aussi briser les barrières sociales à l'époque, parce qu'il va même mentionner, il va dire que l'Esprit de Dieu va être disponible, pas juste pour ceux qui sont bien nantis, qui réussissent dans la vie. Il va dire même pour les serviteurs et les servantes, même pour ceux qui sont traités à l'époque dans une classe vraiment à part, ou ceux qui n'ont pas de valeur. Dieu est en train de mentionner à travers le message de Pierre que l'Esprit de Dieu est pour tout le monde. Il n'y a plus de barrières sociales. Le message n'est pas juste pour ceux qui comprennent, ceux qui réussissent. Le message est pour tout le monde. Et la dernière barrière que je veux m'adresser sur cette barrière-là aujourd'hui, c'est la barrière générationnelle. Où Pierre vient briser la barrière générationnelle, où à l'époque de Pierre, lorsqu'il prêche ce message-là, les enfants n'ont pas de valeur. Les enfants sont mis de côté. Vous allez voir ça partout quand Jésus va dire « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'est complètement contre-culturel de l'époque. Mais Pierre vient appuyer sur ça en disant « Voici ce que Dieu déclare. Il va déverser son esprit sur vos fils et vos filles, et les jeunes auront des visions, et les vieillards auront des rêves. » Dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de barrière générationnelle. Dieu veut se servir des gens de tous les âges, de toutes les générations, et c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est une église multigénérationnelle, et tout le monde est appelé à y contribuer ensemble. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Notre vision, c'est de bâtir cette église-là, qui est dans Acte 2, une église remplie de visionnaires et de rêveurs. Depuis 2 ans et demi, depuis que l'église est ouverte, vous ne savez pas le nombre de fois qu'on me dit « Ah ouais, mais vous autres, c'est une église de jeunes. 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 Moi, j'arrive, là, on se sent vieux parce que là, c'est une église de jeunes. Quand on voit les lumières, puis ça bouge, puis là, quand on chante, nous marchons dans ta victoire, il y en a qui disent, oh, ça, c'est une chanson de jeunes, ça. Ça, c'est une chanson de jeunes. Puis les lumières, puis il y en a sur le stage, des fois, ils ont des casquettes. Puis ça arrive, on a des casquettes, on n'est pas habitué à ça. Il y a des casquettes, c'est une église de jeunes. C'est une église de jeunes. Puis le pasteur, vous savez pas combien de fois en 2 ans et demi, lorsque les gens arrivent, puis moi, ils me connaissent pas, puis là, ils disent, ouais, mais toi, quand tu dis que t'es pasteur, est-ce que t'es le pasteur jeunesse ici? Non, madame, je ne suis pas pasteur jeunesse, j'ai peut-être l'air du pasteur jeunesse, mais je ne suis pas le pasteur jeunesse. Et je veux simplement, dans ce message aujourd'hui, nous ramener comme une grande famille ensemble ici à Nouvelle Vie. On n'essaie pas d'être une église de jeunes. Nous n'essayons pas d'être une église cool. Nous essayons d'être une église multigénérationnelle qui va rejoindre la génération d'aujourd'hui. Et pour tous ceux qui pensent que vous êtes trop vieux pour cette église, je veux dire, dans le nom de Jésus, c'est pas vrai. Nous avons besoin de vous dans cette église. C'est pas une église de jeunes, c'est une église multigénérationnelle. Notre vision, c'est d'être une église qui est remplie de l'Esprit, qui prêche la Bible, qui aime les gens, mais qui est pour toutes les générations. Où chacune des générations peut expérimenter la présence de Dieu et bâtir l'œuvre de Dieu ensemble. C'est notre rêve. Et déjà dans l'église, il y a plusieurs familles. Pour moi, c'est tellement beau, puis je préparais mon message cette semaine. Puis je trouvais ça tellement beau de voir des grands-parents qui servent dans la même église que leurs petits-enfants. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. On n'est pas l'église juste des petits-enfants. On est l'église de toutes les générations ensemble. Les visionnaires et les rêveurs ensemble. Notre vision de rejoindre les gens, oui, de tous les backgrounds, oui, de toutes les nationalités, de tous les arrière-plans, c'est notre cœur. Mais aussi, notre cœur, c'est pour toutes les générations des gens de tous les âges. Puis c'est ce que Pierre décrit. Que Dieu n'est pas simplement le Dieu d'une génération, puis une fois qu'il est fini, qu'il est rendu trop âgé, il passe à autre chose. Non, Pierre décrit le Dieu qui est le Dieu des générations. C'est l'endroit où les petits-enfants sont avec les enfants et les parents et les grands-parents. Puis Paul va enseigner, Pierre va enseigner que Dieu veut se révéler à toutes les générations. Il veut se servir à toutes les générations. Il veut utiliser chacune des générations, les jeunes comme les moins jeunes. Et si je peux être honnête avec vous juste quelques instants, l'Église, historiquement, on a été très mauvais là-dedans. Si vous étudiez l'histoire de l'Église depuis les derniers siècles, vous ne verrez pas beaucoup. Juste aujourd'hui, cherchez une Église au Québec qui a 100 ans d'histoire. Vous n'en trouverez pas beaucoup si vous en trouvez une. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu des gaps de génération. Où il y a une génération qui implante une Église et l'Église peut avoir une croissance pendant une période, pendant une saison. Mais pendant une saison, il y a un écart générationnel qui s'installe où on finit dans les églises. Historiquement, au Québec, pas toutes les églises, mais si vous étudiez l'histoire de l'Église au Québec, majoritairement, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive à la fin où tous ceux qui ont implanté les églises s'en viennent à plus de 60 ans et il n'y a plus personne dans l'équipe pastorale qui est en bas de 30 ans. Et l'Église finit par s'essouffler parce que la génération qui pousse de 20, 30, 40 ans n'ont plus personne pour s'identifier dans les figures pastorales dans leur église. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils quittent les églises et les églises finissent par s'essouffler et certaines mourir. On n'a pas été bon historiquement au Québec pour faire ça. Moi, je suis tellement béni quand je vais aux États-Unis de visiter certaines églises. Je suis allé dans des églises où il y a l'église de plus de 200 ans d'histoire. Imaginez. Mais ça, c'est le flambeau qui se passe de génération en génération. Où tu regardes dans l'équipe, il y a des messieurs que j'ai vus qui sont pasteurs. Ils servent dans des églises depuis plus de 50 ans dans la même église à servir avec des rôles, évidemment, qui ont évolué, qui ont changé, qui se sont adaptés. Mais dans l'équipe pastorale, tu as des jeunes d'une trentaine d'années qui sont là. Et l'église, ça fait plus de 200 ans que l'œuvre de Dieu continue. Et il y a quelque chose dans mon cœur cette semaine qui bouillait en disant, Seigneur, fais de nous cette église qui est remplie de visionnaires, remplie de jeunes, mais aussi remplie de rêveurs qui sont là avec l'expérience, avec la sagesse pour conseiller, mentorer, prier, soutenir, entourer les plus jeunes, mais bâtir l'œuvre de Dieu ensemble. Bâtir l'œuvre de Dieu ensemble. Et ce que je découvre, j'ai pas beaucoup d'expérience dans l'œuvre de Dieu, ce que je découvre, c'est que c'est pas une question d'âge. J'ai vu des gens qui ont une trentaine d'années qui se disent « Moi, je suis trop jeune encore pour servir Dieu. » Si vous allez dans certains cercles ailleurs, moi, j'ai des amis en France qui étudient pour être pasteur, qui se forment pour être pasteur. Je les vois graduer, je les vois dans leur formation, dans tous les stages ministériels qu'ils font. Ils arrivent à une trentaine d'années et on les considère trop jeunes encore pour avoir un impact. Tu peux être trop jeune, tu peux te sentir trop jeune et avoir 30 ans. Puis j'ai vu des gens qui ont une cinquantaine d'années qui disent « Moi, c'est fini, j'ai plus rien à apporter, c'est terminé. » Je veux dire, dans les deux cas, c'est des mensonges. Dans les deux cas, c'est des mensonges. Nous avons besoin des deux, les jeunes et les moins jeunes. Parce qu'une église seulement remplie de jeunes, une église qui est juste remplie d'énergie, d'idées, de créativité, de tout le temps des nouveaux projets, de nouvelles affaires, mais qu'il n'y a pas personne plus âgé, qu'il n'y a pas de l'autre côté des gens qui ont de l'expérience, de la sagesse qui sont là. Naturellement, si une église est juste remplie de jeunes, il va finir par manquer de stabilité. Il va finir par manquer d'expérience. Il va finir par manquer de sagesse, parfois, dans certaines décisions. Alors, on ne veut pas juste une église de jeunes. Mais ce qui est vrai pour les jeunes, c'est aussi à l'inverse. Une église de personnes âgées seulement ou des gens qui sont dans l'œuvre de Dieu depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans seulement, qui sont là à protéger les méthodes anciennes, la façon de faire. C'est comme ça qu'on l'a toujours fait, puis c'est juste comme ça qu'il faut que ça se fasse. Puis on le faisait dans notre temps, puis il y a eu du fruit là-dedans. Puis merci Seigneur pour le fruit qu'il y a eu dans le passé. Mais est-ce que ça se pourrait que Dieu ait des nouvelles méthodes pour la génération d'aujourd'hui? Est-ce que ça se pourrait? Je vais juste lancer ça comme ça. Lancez-moi pas de tomates, personne, ce matin. C'est une parole de Dieu, ce matin. Parce qu'une église qui est remplie uniquement de personnes expérimentées ou personnes plus âgées, qui s'attachent aux choses du passé, qui protègent les méthodes du passé, l'église va se retrouver en danger de ne plus rejoindre la génération présente. Et l'église va être en danger de mourir éventuellement. Nous avons besoin des deux. Les jeunes et les moins jeunes. L'énergie, les idées, la créativité, la passion des visionnaires. Mais on a besoin aussi de la sagesse, je veux le dire à tous les jeunes qui sont là. Nous avons besoin de la sagesse, de l'expérience, des encouragements, des prières et le zèle des rêveurs qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Il y en a qui ont encore le feu dans leur cœur. Nous avons à apprendre de ça. Nous avons besoin des deux. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des générations. Lorsqu'on lit dans notre jargon chrétien, là, si tu vas à l'église depuis plusieurs années, c'est sûr que tu as entendu le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans, beaucoup plus que c'est pas seulement le Dieu de ces trois individus-là. Dieu, dans toute la Bible, communique le message qu'il est le Dieu des générations. C'est pas juste, il était le Dieu personnel d'Abraham, même si c'est vrai. Mais lorsqu'il m'a mentionné le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à 30 000 pieds, il y a un message que Dieu communique, qu'il est le Dieu de toutes les générations. Que lorsque Dieu voyait Abraham, il ne voyait pas juste Abraham, il voyait Isaac et Jacob et la suite. Et même à travers la parole de Dieu, lorsque Dieu va dire à travers Abraham, il y avait la semence d'un jour de ce que allait être Jésus. Dieu ne voit pas seulement la génération pour ce qu'elle est, il le voit pour l'autre qui vient après et l'autre qui la suit. Et jusqu'à temps que Jésus revienne, jusqu'à temps que Jésus s'y tarde son retour, bien, Dieu voit déjà toutes les générations qui vont se succéder. Dieu ne voit pas juste notre génération. Ici, en 2024, on bâtit l'Église Nouvelle Vie qui a 2 ans et demi. Dieu voit l'Église Nouvelle Vie à 200 ans si Jésus n'est pas revenu. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Dieu est le Dieu des générations. Il faut élargir nos œillères. Ce n'est pas juste, non, il faut faire nos affaires. Non, il faut voir plus large. La vision de Dieu est beaucoup plus large que juste nous, ici. C'est qu'est-ce qu'on va léguer après? Qu'est-ce qui va arriver après? Comment la génération qui nous succède va arriver et comment elle va ramasser l'œuvre de Dieu qu'on a bâtie? Dieu pense de génération en génération, pas juste d'une personne à l'autre. C'est de génération à génération. Puis ce matin, je veux m'adresser aux deux groupes de personnes, les visionnaires et les rêveurs. Et je vous laisse décider dans laquelle catégorie vous êtes. Si vous avez entre 40 et 60, décidez. Vous êtes dans quelle catégorie? Que l'Esprit de Dieu vous convainque. C'est pas moi qui vais mettre des anges là-dessus ce matin. Oh non, je ne ferai pas cette erreur-là. Je veux m'adresser aux deux groupes de personnes ce matin, les visionnaires. Ceux qui se considèrent jeunes et ceux qui sont jeunes. Et ceux qui sont des rêveurs, ceux qui ont l'expérience, ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps ou ceux qui ont un âge plus avancé. Je vais m'adresser ce matin aux deux groupes de personnes en commençant par les visionnaires. Dans Actes 2, 17, sous l'inspiration de l'Esprit, Pierre va dire dans les derniers jours, ces jours-là dans lesquels on est, Dieu dit, « Je déverserai de mon esprit, sur tout être humain, sur vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Alors que Pierre prêche ce message, c'est le lancement de l'Église. Imaginez la première prédication qui est faite pour le lancement de l'Église telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans le rassemblement, dans la forme qu'on a aujourd'hui. Pierre mentionne dans le début de son message que l'Église était aussi pour les enfants et pour les jeunes. Pensez à ça 2 secondes. Que les jeunes ne sont pas une nuisance. Que les jeunes ne sont pas juste « on est obligé de les tolérer ». Que les jeunes ne sont pas juste des observateurs du royaume. Attends d'avoir 22 ans, puis peut-être que là, tu pourras faire quelque chose. Les jeunes ne sont pas juste des observateurs, ils ne sont pas des nuisances, ils ne sont pas juste là, puis on est obligé de s'en occuper parce qu'ils viennent avec les parents, enfin, pour s'en occuper. Ce n'est pas juste ça. Pour Pierre, le message, la vision qu'il lance, c'est que les enfants ont leur place. Les jeunes ont leur place. Ils devraient avoir un rôle à jouer parce que Dieu les appelle. Dans la même phrase que les vieillards sont appelés, les jeunes le sont autant. Et ça devrait être le rôle encore aujourd'hui de l'Église de faire les jeunes ne sont pas de nuisance. Les jeunes, on n'est pas juste pogné avec parce qu'ils viennent avec les parents. Les jeunes ne sont pas appelés juste à des observateurs à Nouvelle Vie. Ils doivent avoir leur place et on doit leur faire de la place parce qu'ils sont appelés eux aussi. Ils sont appelés. Ils sont appelés. Ils ont un rôle à jouer. Les jeunes auront des visions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va se révéler à eux. Il y a des choses que Dieu va révéler à eux qu'il ne révélera peut-être pas aux autres générations. Il y a des visions. La vision, j'aimerais dire à tous ceux qui ont plus d'expérience, la vision du royaume de Dieu pour les prochaines années va probablement venir de la jeune génération. Comment Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire au Québec dans les prochaines années? Moi, je veux dire merci Seigneur pour tous ceux qui ont bâti l'œuvre de Dieu jusqu'à maintenant. Mais la prochaine étape va se bâtir par la nouvelle génération. Et Dieu veut se révéler à eux. Les jeunes vont avoir des visions, Dieu va se révéler, Dieu va donner des visions aux jeunes pour le futur de son royaume. Dieu va se révéler à eux. Et on a besoin à Nouvelle Vie. Je veux le dire à chaque personne, si vous voyez des jeunes prendre leur place dans l'Église, c'est notre vision de le faire. Nous avons besoin de faire de la place pour les jeunes, de valoriser le ministère des jeunes. Oh, est-ce qu'ils vont faire des erreurs? Oui, ils vont faire des erreurs. Mais c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Savez-vous quoi? Pierre a prêché la Pentecôte, mais son background est rempli d'erreurs. Mais merci Seigneur que la grâce est là, que malgré les erreurs, Dieu ne l'a pas jeté aux poubelles. Dieu n'avait pas dit son dernier mot, il l'a utilisé encore. C'est la même chose avec nos jeunes. On doit valoriser leur ministère, encourager, les propulser dans leurs appels. Pas juste attendre de voir s'ils vont prendre leur place. Pour tous les plus âgés, puis moi je me considère ça à 34 ans, je me dis les plus jeunes qui arrivent, c'est mon rôle, c'est notre rôle de leur dire, je vois quelque chose en toi que peut-être tu ne vois même pas en toi en ce moment, mais je vois la main de Dieu sur toi, tu dois servir Dieu. Dieu t'appelle à le faire, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Dieu appelle des jeunes, mais Dieu va appeler les plus âgés à leur faire de la place, à aller les tirer dans leur appel. Dans la Bible, il y a un narratif partout, vous allez voir ça, où Dieu veut servir des plus âgés, je vais en parler tantôt, pour aider les plus jeunes à entrer dans leur appel. Mais c'est fascinant pour moi, là, quand on regarde plusieurs, pour nous, des personnages hyper importants dans la Bible. Lorsque nous, on dit, waouh, ça, c'est des personnages importants, mais c'est fascinant pour moi de voir l'âge à laquelle Dieu est allé les appeler. Si vous regardez, par exemple, le personnage de Joseph dans Genèse, Joseph, ah ouais, le gouverneur d'Égypte, probablement que Joseph, c'est un adolescent, là. C'est un ado, il n'avait pas 35 ans. C'était un ado quand Dieu l'a appelé. Pour tous les parents d'ado, ne minimisez pas comment Dieu parle à vos enfants. Joseph, c'est un ado. David, le roi David, ah, l'homme selon le cœur de Dieu, le plus grand roi d'Israël. C'est un ado. Quand le prophète Samuel est envoyé de Dieu pour mettre la corne d'huile sur lui, qui est là, puis tout l'appel, l'onction, tout là, l'appel de devenir roi, c'était un ado à ce moment-là. Samuel, c'était jeune. Marie, la mère de Jésus, celle qui a porté le sauveur, c'était une ado à ce moment-là. Plein d'endroits dans la Bible, vous allez voir, le prophète Jérémie, c'est un enfant, il est là, il ne sait pas ce qui se passe, Dieu l'appelle, il ne comprend pas, c'est un enfant à ce moment-là. Dans Jérémie, regardez juste l'exemple de Jérémie, versets 4 à 10 de Jérémie 1. « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Que personne vienne me dire que Dieu n'appelle pas les jeunes. Dieu avait des projets pour eux bien avant qu'ils viennent au monde. Je t'avais désigné prophète pour les nations. » Regardez la réponse de Jérémie, tout jeune. J'ai répondu, « Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler. Je suis trop jeune. » Regardez la réponse de Dieu. L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te redonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Si tu prends des notes, manque pas ça. L'âge n'est jamais une excuse avec Dieu. Tu peux pas être trop jeune pour Dieu et tu peux pas être trop âgé pour Dieu. L'âge ne fait pas partie de l'équation avec Dieu. Quand Jérémie dit, « Ah, Seigneur, mais je suis trop jeune. Seigneur, regarde, je ne sais pas parler, je suis trop jeune. » La première réponse que Dieu lui dit, « Ne dis pas que tu es trop jeune parce que c'est moi qui t'appelle et tu vas y aller. » Et moi, je vais être avec toi. Mais dis pas que tu es trop jeune. Dans mon royaume, il n'y a pas d'excuse d'âge. Ni trop jeune, ni trop vieux. Je vais y venir tantôt. Et je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin, tous les jeunes, tous les ados, tous les enfants qui ont écouté ce message, vous n'êtes pas trop jeune dans cette église pour prendre votre place. Si Dieu vous parle, si vous avez à cœur des choses, parlez-nous, on se parle. Vous devez prendre votre place. Il faut que cette église soit une pépinière pour que des jeunes poussent et deviennent tout ce que Dieu a prévu pour eux. L'Église n'est pas appelée à mettre un bouchon sur eux pour leur dire « Reste là, reste à Nouvelle-Virginie, fais rien d'autre, reste en arrière. » Non, l'Église devrait être sûre qui non, viens, viens avec nous, utilise les dons que Dieu t'a donnés, viens servir avec nous. Tu veux servir dans le hall, tu peux y aller si tes parents sont d'accord, puis viennent avec toi, puis il y a un adulte, tu peux y aller si t'es mineur. Mais tu peux venir, il y a une place pour toi dans cette Église. On veut bâtir une maison pour toutes les générations. Paul va dire à Timothée dans le Nouveau Testament, à Timothée qui est un jeune ouvrier dans l'œuvre de Dieu, un jeune pasteur. Regardez ce que Paul va lui dire, puis c'est une parole pour tous les visionnaires de cette église, tous les jeunes. Que personne ne te méprise pour ton jeune âge. Et moi, j'ai pris dans cette église que personne ne méprise les jeunes. Que lorsqu'on voit les jeunes qui poussent, lorsqu'il y a des jeunes, puis des fois, c'est pas juste d'aller le voir puis de le mépriser verbalement. Des fois, c'est juste un regard. Des fois, c'est juste dans les pensées. Des fois, c'est juste les conversations en voiture après l'église. Des fois, c'est juste à la maison. Mais soyons pas cette église qui va mépriser les jeunes à cause de leur jeune âge dans l'œuvre de Dieu. Soyons ceux qui vont dire, on va prier pour eux. Dieu a peut-être quelque chose pour elle. Dieu a peut-être quelque chose pour lui. On soit pas ceux qui méprisent. Puis pour les jeunes, il y a un standard qui vient avec ça. Parce que Paul va dire, ne méprise pas, que personne ne méprise ton jeune âge. Mais toi, efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Parce que la maturité spirituelle, ce n'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui sont âgés et vraiment pas matures spirituellement. Mais j'ai vu des jeunes, très jeunes en âge, mais très matures spirituellement. Ce n'est pas une question d'âge. Vous n'avez aucune idée combien de fois je me suis fait dire, moi, j'étais trop jeune, même juste dans l'implantation d'église. Trop jeune, trop jeune, t'es pas mal jeune. Tu vas pouvoir servir dans une église encore quelques années avant, t'es trop jeune. T'es-tu le pasteur jeunesse? Vous n'avez pas le nombre de fois. Si moi, je me fais dire ça, je me dis, Seigneur, combien de fois est-ce que des plus jeunes se font dire ça? Moi qui avais quand même 30 ans quand on a commencé, quand on a déménagé. Là. Puis je veux dire à tous les enfants, à tous les ados, à tous les jeunes qui écoutent ce message, si Dieu t'appelle, personne ne peut te canceller. Puis on vit dans le cancel culture en ce moment où tout le monde peut décider de te canceller pour n'importe quelle raison. Si Dieu t'appelle, personne ne peut te canceller. Si Dieu a sa main sur toi, si Dieu t'a parlé, s'il y a un ministère pour toi, peu importe ce que les gens vont dire, suis Jésus, marche avec lui, personne ne va pouvoir empêcher Dieu de faire son œuvre dans ta vie. Sers-le, aime-le, marche avec lui, pardonne, aime, démontre de la grâce, mais continue d'avancer dans ce que Dieu a pour toi. Il va utiliser ta vie, puis je le sais, puis je le déclare ce matin, sur ta vie. Je crois que dans notre église, il y a plein de jeunes qui sont appelés à servir. Il y a des jeunes ici qui sont appelés à prêcher. Il y a des jeunes ici qui sont appelés à chanter pour l'œuvre de Dieu, qui sont appelés à bâtir l'œuvre de Dieu. Il y a des leaders qui vont être des gestionnaires extraordinaires pour l'œuvre de Dieu. Qui sont dans, ici, c'est des enfants qui sont de l'autre côté du mur aujourd'hui. Il y a une génération de visionnaires qui poussent dans cette église. Soyons l'église qui leur fait de la place. Soyons l'église qui leur fait de la place. Moi, quand j'écrivais ce message cette semaine, je repensais à ma propre vie. De ne pas minimiser à quel point Dieu parle aux jeunes. J'avais 11 ans quand Dieu a déposé dans mon cœur que j'allais être pasteur. Puis c'est particulier parce que j'avais aucune dans ma famille, la majorité, très, très grande majorité, pour pas dire toute ma famille, à part ma famille immédiate, sont tous pas croyants encore à ce jour. J'ai pas de modèle de pasteur autour de moi, j'ai pas personne dans le ministère dans ma famille, il n'y a pas personne de ça. Mais c'est comme si à 11 ans, j'avais la conviction quand ma tante, qui ne connaissait pas le Seigneur, m'a dit « Toi, mon petit JP, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? » Ma réponse au souper de famille, un jour, moi, ma tante, je vais être pasteur. Que personne ne me dise que Dieu ne parle pas aux jeunes. Puis j'ai eu mon parcours, je me suis éloigné, mais c'est ce que je fais aujourd'hui. Que personne ne méprise, que personne ne minimise ce que Dieu peut faire dans la vie de nos jeunes. Je veux le dire à tout le monde, puis je vais être plus long ce matin, je m'excuse d'avance. Nouvelle Vie Junior, ce n'est pas un ministère secondaire dans l'Église. Nouvelle Vie Junior, c'est aussi important que ce qui prend place dans cette pièce. Nouvelle Vie Junior, ce n'est pas une garderie. On ne garde pas vos enfants. Les ados, NVA, ce n'est pas juste une garderie pour des plus vieux. On ne garde pas vos ados pendant que vous avez une soirée tranquille le vendredi. Ce n'est pas notre cœur. Ce n'est pas notre vision. Je crois que l'Esprit de Dieu peut parler aux plus tout petits qui sont de l'autre côté. On n'a aucune idée comment le petit cœur d'un enfant peut comprendre quelque chose qu'un adulte ne pourrait pas comprendre parce que son cœur est trop fermé et trop dur. Mais un petit cœur d'enfant qui est là, on n'a aucune idée à quel point Dieu peut leur parler, à quel point Dieu peut commencer à leur révéler des choses, commencer à les guérir même de blessures qui sont arrivées, même s'ils sont tout jeunes. Vous seriez surpris, les enfants, à quel point ils sont tout petits et ils ont déjà un bagage de blessures incroyablement difficile. Mais vous n'avez aucune idée à quel point de l'autre côté du mur, Dieu peut se servir de ce qui prend place pour commencer à guérir, commencer à parler, commencer à rassurer, commencer à guider, commencer juste à rapiécer les mots, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui est cassé, puis Dieu commence à juste rapiécer tout ça. Je le dirais comme ça, il n'y a pas de Saint-Esprit junior, il y a juste un Saint-Esprit. Alors que tu as 90 ans ou que tu en as 3, c'est le même Saint-Esprit. C'est pas une garderie. C'est une génération de visionnaires. On est appelé à leur faire de la place. Moi, je rêve de bâtir une église, OK, où les enfants ne savent pas ce que c'est une église plate. Que nos enfants grandissent dans une église, puis lorsqu'ils entendent ailleurs, oh, mais l'église, c'est plate. De quoi tu parles? Je rêve que nos enfants grandissent dans une église où ils ne savent pas c'est quoi une église qui n'est pas pertinente, où on parle de leur réalité dans leur culture aux ados. On parle, on n'est pas la tête dans le sable, on sait ce qu'ils vivent, mais on leur parle avec la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Voici dans les, voici dans la culture que tu trouves, mais voici la parole de Dieu qui transcende les générations, qui est là pour toi aussi. Puis que les ados disent, je ne sais même pas c'est quoi une église pas pertinente, parce que quand j'étais à NVA, on parle des choses que je vis pour vrai, mais Dieu me parle là-dedans aussi, puis Dieu me guide là-dedans aussi. Prions pour bâtir une église. Ils ne sauront même pas c'est quoi une église qui n'est pas pertinente. Mais prions, rêvons ensemble de bâtir une église où nos enfants, nos ados et nos jeunes vont rencontrer Dieu à chaque semaine dans toutes sortes de formats. Ils vont être utilisés par Dieu, ils vont être transformés par lui. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Amen. Je vais terminer en m'adressant aux rêveurs ce matin. Si dans le message de Pierre, les visionnaires, c'est les jeunes gens auront des visions, c'est les visionnaires. Mais il s'adresse aussi aux vieillards, aux personnes plus âgées. Il leur dit, eux aussi auront des rêves. Ils ne sont pas écartés du plan de Dieu. Au contraire, Dieu veut déverser son esprit sur eux aussi pour qu'ils aient un rôle à jouer eux aussi. Et si les jeunes peuvent se disqualifier comme le prophète Jérémie à cause de leur âge, puis parfois nous aussi, on se trouve trop jeunes. J'ai combattu plusieurs années avant même d'écrire mon premier livre où ce que je croyais vraiment que Dieu m'avait appelé à faire ça. Puis j'ai combattu ça des années, juste parce que je me trouvais trop jeune pour écrire un livre. Je suis qui pour faire ça? Je ne peux pas faire ça. Je suis trop jeune. Je méprisais ma propre jeunesse. Mais comme des jeunes peuvent mépriser leur jeunesse, je crois que des personnes plus âgées aussi peuvent passer à côté de ce que Dieu a pour eux dans la saison dans laquelle ils se trouvent parce qu'ils se trouvent trop vieux. Très silencieux dans cette première réunion à ce moment-ci du message. Mais c'est vraiment vrai. Si on méprise certains jeunes parce qu'ils sont trop jeunes, je crois que l'inverse existe aussi. Et prions et bâtissons une église qui ne méprisera pas les jeunes, mais ni les personnes les plus âgées qui ont encore beaucoup à donner. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Le même verset, acte 2. Dans les derniers jours, Dieu a dit, « Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, les visionnaires. Vos jeunes gens auront des visions. » Mais vos vieillards auront des rêves, des rêveurs. J'aimerais dire à tous ceux, au son de ma voix, ici en présence, en personne, ceux qui vont écouter en ligne, tu n'es pas trop vieux, trop vieille pour servir Dieu. Ta saison n'est pas finie. Le meilleur n'est pas juste en arrière, puis maintenant je ne sers plus à rien. Nous avons besoin de toi, de vous. Je vous voyais, je ne sais pas. Marche des heures maintenant. C'est compliqué d'être dans mes souliers, OK? La Bible, elle est remplie autant de jeunes que Dieu a appelés, mais la Bible est aussi remplie de personnes avancées en âge que Dieu s'est servi puissamment. Ou c'est pas juste maintenant, quand tu passes le cap d'un certain âge, je ne vais pas le dire d'âge parce que je vais recevoir des courriels, c'est pas à partir d'un certain âge maintenant, là, j'ai servi Dieu, mais maintenant, je profite puis je m'assois. Ça n'existe pas dans la Bible. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans. Je peux vous dire, la moyenne d'âge, je n'ai pas 75 dans notre église, mais il y a des gens de 75 dans notre église. Dieu peut encore t'appeler. Moïse, 80. Il avait 80 quand il était dans le cœur de l'appel de Dieu pour sa vie. Aaron, qui était avec lui, son bras droit, 83. Deux petits jeunes prêts à servir l'Éternel. 80-83. Un des personnages qui m'inspire le plus dans toute la Bible, c'est Caleb. Caleb dans l'Ancien Testament. Caleb avait 85 ans dans une saison de son ministère. 85 ans. Je ne sais pas si quelqu'un peut battre ça dans notre église, 85. Je sais qu'on va marier un couple qui est dans les 80, qui sont peut-être là ce matin. Mais Dieu n'a pas fini. Ils sont une preuve vivante que Dieu n'a pas fini. Ils peuvent se marier à 80. Regardez Caleb. Caleb, là, je finis avec ça. Caleb avait 85 ans lorsqu'on va lire le texte aujourd'hui. Caleb, ça fait plus de 45 ans qu'il sert Dieu. Il a fait partie de ceux qui ont été les espions envoyés par Moïse pour aller découvrir la terre promise. Caleb a tout vécu ça. La sortie d'Égypte, l'entrée dans la terre promise. Il y en a juste deux qui ont tout vécu ça. C'est Josué et Caleb. Puis alors qu'ils rentrent dans la terre promise, les années passent. Le peuple de Dieu commence à s'installer dans la terre promise. Mais là, dans Josué chapitre 14, là où on va aller, Caleb a maintenant 85 ans. Ça fait 45 ans qu'il a été envoyé par Moïse comme espion. Ça fait longtemps qu'il sert Dieu. Et maintenant, dans un âge avancé. Puis regardez ce que Caleb va dire. C'est Caleb qui parle, dit « J'étais âgé de 40 ans. » Lui, il dit ça, c'est jeune en passant pour lui. Quand il dit ça, il en parle comme s'il était vraiment jeune. 40 ans, c'est le nouveau 20. On est vraiment jeune. « J'étais âgé de 40 ans. » Parole de vie pour certains. « Lorsque Moïse, le serviteur d'Éternel, m'a envoyé de Kadesh-Barnéa explorer le pays. Et c'est avec un cœur droit que je lui ai fait mon rapport. Mes frères qui étaient montés avec moi ont découragé le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse a juré, Moïse a dit ça à Caleb, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage et celui de tes descendants, ça c'est les générations en générations en générations, pour toujours, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, là, Caleb, maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'avait dit. Il y a 45 ans que l'Éternel a dit ça à Moïse, à l'époque où Israël marchait dans le désert. Et je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Regardez ça, ça c'est le meilleur verset de la matinée. Je suis encore aussi robuste que le jour où Moïse m'a confié cette mission. Caleb est en train de dire à 85 ans, j'ai la même énergie, je suis encore aussi robuste que quand j'en avais 40. Il n'y a rien qui a changé. Absolument rien, Caleb, tout est pareil. J'ai autant de force que j'en avais alors, qu'il s'agisse de combattre ou de partir en campagne et en revenir. Donne-moi donc la région montagneuse dont l'Éternel a parlé à cette époque-là. Il séparait le territoire en plein de régions différentes, mais Caleb est en train de choisir un des territoires les plus difficiles, montagneux, tout ça, c'est vraiment dur. Caleb rempli du feu dans son cœur. Donne-moi les montagnes là-bas, je vais y aller. Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Puis regardez Caleb à 85 ans. Si l'Éternel est avec moi, je les chasserai, comme il l'a dit. Oh, que je prie pour des Caleb dans cette église. Des gens avancés en âge, mettez l'âge que vous voulez là-dessus, mais qui vont dire, oh, le feu dans le cœur. Après 45 ans à servir Dieu, on aurait probablement compris Caleb de dire, j'ai servi l'Éternel toute ma vie. Donne-moi le territoire que tu veux et je vais juste me reposer avant d'aller rejoindre mon Sauveur. Tout le monde aurait compris ça. Mais Caleb, 85 ans, encore le feu de l'Esprit de Dieu en lui. Le feu dans les yeux. Moi, j'imagine Caleb, le feu dans les yeux. Je l'imagine, un petit monsieur de 85 ans, nerfé, prêt, il est là, il est prêt, il arrive tôt. Puis il dit, donnez-moi n'importe quoi qu'il y a à faire. Je suis encore capable. Le feu dans les yeux. Et je prie pour des Caleb. Spirituellement, ça ne veut pas dire d'arriver ici pour monter les chaises, ça ne veut pas dire de monter le stage, ça ne veut pas dire de faire plein de travaux physiques. Mais j'ai prié pour des gens qui vont avoir le cœur de Caleb, pour dire même à 85 ans, Dieu n'a pas fini avec moi. Même à 85 ans, peu importe ce que je suis capable de le faire, je vais le faire. Parce que Dieu est encore avec moi, il n'a pas fini avec moi, mon ministère n'est pas terminé. Dieu veut se servir de moi. S'il y a des géants à abattre, je ne serai peut-être plus la personne au front, mais je suis encore capable de me battre. Comme on a chanté, les mains dans les airs, en train de prier, en train de louer, en train de me battre spirituellement, je suis encore capable de faire. Et je prie pour une génération de gens qui vont trouver leur place, une génération de rêveurs qui vont dire, on veut être des Caleb, on veut bâtir avec les jeunes, on veut bâtir ensemble, on veut bâtir l'œuvre de Dieu. Je prie pour ça. Je vais dépasser un peu, c'est pas grave, ce matin, je m'excuse d'avance, mais j'étais tellement frappé par une histoire de David Wilkerson, qui est David Wilkerson, qui était le fondateur de World Challenge, Teen Challenge, tous les centres pour jeunes partout dans le monde, le fondateur de Times Square Church à New York. Puis il y a une histoire très, très connue dans le cercle des pasteurs ou dans une conférence de pasteurs. Okay? Puis ça, c'est les pires conférences. Si tu veux prêcher dans une conférence de pasteurs, les pasteurs, c'est les pires à prêcher parce qu'ils n'écoutent pas ce que tu dis, ils prennent des notes pour leur futur message. C'est les pires. Puis David Wilkerson est dans une conférence de pasteurs et leaders. Puis là, il y a la louange, comme on a, nous, à chaque semaine. Puis, moment de louange. Puis, juste après la louange, c'était au tour de David Wilkerson d'y aller. Puis, il était avancé en âge, David Wilkerson. Puis, alors qu'il était avancé en âge, là, les gens disent, oh, « Il est où, pasteur David? » On le cherche partout en arrière, on ne le trouve pas. C'est parce que là, la chanson finit bientôt. Ça va être à lui. faudrait trouver, il l'appelait à l'époque Brother Dave. Faudrait trouver Brother Dave. Fait que là, ils se mettent partout à chercher, partout en arrière. Il est où? Il est où David Wilkerson? Il est où David Wilkerson? Puis ils ne cherchent pas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est backstage qui entend juste quelqu'un qui crie Give me a word! Puis ça, là, c'est David Wilkerson. OK? Je vais le faire pour que vous reteniez l'image. Plus de 60 quelques années de ministère. Il est comme ça, en arrière. Give me a word! C'est David Wilkerson, couché à plat ventre à terre, à implorer que Dieu lui donne une parole pour les pasteurs qui sont là. Il y avait probablement 5000 prédications dans son fichier qui auraient pu sortir. Il y a encore le feu dans son cœur. Je ne m'en vais pas là juste prêcher, je ne m'en vais pas juste faire un petit message puis je retourne chez nous. Il était « Seigneur, il faut que tu me donnes une parole pour eux. » Puis on retrouvait David Wilkerson backstage, couché à plat ventre, le feu dans les yeux, l'Esprit de Dieu sur lui en train de dire « Give me a word. » Puis dans un de ses livres qui est écrit, sa biographie, ils vont décrire que ce moment-là qu'il y a eu avec les pasteurs, c'était un moment comme s'ils ont tous touché le ciel, tous les pasteurs se sont avancés, ils ont juste prié. Parce que David Wilkerson n'était pas juste sur le pilote automatique en train de finir sa vie, finir son ministère. Il était là avec le feu dans les yeux, comme Caleb, de dire « Seigneur, si tu es avec moi, il faut que tu me donnes une parole pour ces gens-là. Ils ont besoin pas d'une parole de David Wilkerson, ils ont besoin d'une parole de toi. » Et moi, je prie pour tous les pasteurs, les leaders et pour moi-même d'avoir ce feu-là après 20, 30, 40 ans à servir Dieu comme David Wilkerson. Je prie pour une génération de rêveurs qui, à votre mesure, à vous, dans votre appel à vous, dans votre capacité à vous, mais qui allait avoir un feu dans votre cœur de servir puis de bâtir l'œuvre de Dieu. Je vous invite à vous lever pour me faire partir d'ici. Je veux dire à toute la génération de visionnaires et rêveurs, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. L'Église grandit, si vous n'avez pas remarqué, on a besoin. On a besoin de jeunes qui vont dire, moi, je peux contribuer. Moi, je suis capable de venir servir. Dieu m'a donné des dons, Dieu m'a donné des talents, je suis capable de servir. Puis je veux m'adresser aussi à la génération des rêveurs. L'œuvre de Dieu ne se bâtira pas simplement avec des jeunes. Elle va se bâtir avec des moins jeunes aussi. Puis je veux m'adresser à vous ce matin, parce que je sais que dans notre Église, on a assez de self-awareness pour savoir que quelqu'un qui arrive ici à 22 ans peut sentir que c'est plus sa place que quelqu'un qui en a 72. Mais je veux dire à toutes les personnes qui se considèrent plus âgées ce matin, vous avez une place ici et notre Église a besoin de vous. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Nous avons besoin de votre contribution. Nous avons besoin que vous venez avec nous de chaque côté, qu'on continue d'avancer ici à Québec, de bâtir l'œuvre de Dieu à Québec. Nous avons besoin des gens. On a besoin des gens. Il y en a ici des grands-mamans. Nous avons besoin de vous, si vous êtes capable de le faire, à la Nouvelle Vie Junior, prendre soin des visionnaires. Nous avons besoin de vous. Il y a plus de 200 enfants de l'autre côté du mur à chaque dimanche maintenant. Il y a probablement des rêveuses dans cette pièce qui pourraient dire, moi, je peux aller m'occuper. Puis pendant que je le berce, peut-être que je peux prier pour lui ou pour elle. Parce que Dieu veut leur parler aussi. Puis peut-être que je peux être de l'autre côté du mur, peut-être que je ne sais pas quoi faire, moi je ne peux pas être en avant, mais peut-être que je peux aller prendre soin des enfants puis de prier pour eux en même temps que je le fais. Puis il y a peut-être des messieurs qui sont ici qui disent, moi là, je ne sais pas quoi faire. Je veux dire, je vais vous donner quelques exemples de choses que vous pouvez faire. Nous avons besoin de jeunes et de jeunes messieurs en âge, encore des Caleb, 85 ans, c'était jeune, de jeunes messieurs, des rêveurs qui sont capables de faire la sécurité avec nous. Parce que l'Église grandit, puis on veut que l'Église soit un lieu sécuritaire. Nous sommes dans un lieu public qui n'est pas juste notre Église. Il y a des gens qui circulent partout. On a déjà de la sécurité, mais on veut donner du répit à ceux qui sont là à chaque semaine. On a besoin, il y a peut-être des gens qui disent, moi, je ne peux peut-être pas monter les chaises, je ne peux peut-être pas tout faire ça, mais je peux assurer la sécurité dans le corridor de la Nouvelle-Vie Junior, par exemple. Je peux être là, puis alors que les enfants passent, ben oui, peut-être que les rêveuses, les bercent, ils prient pour eux, mais il y a peut-être des rêveurs qui peuvent, alors que les enfants passent, juste qu'ils prient. Seigneur, mets ta main sur elle, mets ta main sur lui, mets ta main sur ce qui va prendre place dans ce local-là, mets ta main sur ce qui va prendre place là. Puis alors qu'il y a des messieurs qui sont là, peut-être que juste la sécurité, il n'y a pas grand-chose à faire, puis on prie qu'il n'arrive jamais rien, mais vous pouvez être là dans le hall en train de vous promener, en train de prier, alors que vous n'êtes pas dans l'auditorium une fois par mois peut-être parce que vous faites la sécurité, mais vous êtes en train de prier pour les gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus dans la salle, par exemple. Puis vous pouvez le faire en train de prier, comme Caleb, le feu dans le cœur. Nous avons besoin de visionnaires et de rêveurs qui vont bâtir l'Église avec nous. Et ce matin, ça peut être ton matin de dire, je veux me lever, je me trouvais trop jeune ce matin, il n'y a plus d'excuses, comme Jérémie. Dieu dit, n'amène pas l'âge dans la conversation, si je t'appelle, tu as ta place. Puis je veux appeler aussi tous les rêveurs et les rêveuses, peut-être que jusqu'à maintenant, on se trouvait trop vieux, on ne savait pas quoi faire. Ce matin, ça peut être le matin, tu dis, c'est le matin où je trace une ligne. Je veux contribuer à la mesure de ce que je suis capable de faire. Et ça va être le portrait de ce que Pierre a prêché il y a 2000 ans. La vision de l'Église, il y a 2000 ans, nous pouvons marcher dedans 2000 ans plus tard. où les visionnaires et les rêveurs bâtissent l'œuvre de Dieu ensemble. Ensemble. Seigneur, je prie pour un moment qui va être un moment de avant et de après dans la vie de plusieurs ce matin. Seigneur, je te prie premièrement pour tous les jeunes au son de ma voix qui peut-être se considéraient trop jeunes. Qu'il y a peut-être des jeunes qui sont ici qui, sinon, tout a l'air de tellement rouler, puis moi, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas d'expérience, je ne sais pas par où commencer. Seigneur, je prie que tu déposes un feu dans le cœur des jeunes. Et comme Jérémie, des fois, on se dit, non, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas quoi faire, je suis trop jeune. La parole de Dieu pour toi ce matin, c'est que tu n'es pas trop jeune. Tu es appelé de Dieu. Et cette maison est une maison où tu as le droit d'avoir ta place. Tu as un rôle à jouer. On veut te faire de la place. Et ce matin, tu peux dire, alors qu'il va y avoir un faux bénévole à la fin de cette réunion, tu peux venir t'avancer, tu peux venir donner ton nom, dire « je ne sais pas quoi faire, puis je suis jeune ». Mais je te garantis qu'on peut être ici, être jeune et servir. C'est notre vision. Puis je veux m'adresser aussi à chaque personne qui est ici, puis tous les rêveurs qui peut-être depuis des années, vous avez enfoui des choses que Dieu avait mis dans vos cœurs. Peut-être qu'il y avait des ministères qui étaient là avant, que vous avez juste abandonné avec le temps parce qu'on dit « Non, mais je ne suis plus pertinent, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi donner, les jeunes, c'est tellement différent dans mon temps, je ne sais plus quoi faire. » J'ai prié que l'Esprit de Dieu se saisisse de vous ce matin pour vous rappeler à quel point vous avez une place dans cette Église, à quel point vous avez un rôle à jouer avec vos capacités, avec le temps que vous pouvez donner, mais vous avez un rôle à jouer. Et j'ai prié pour des rêveurs ce matin qui vont dire « Je veux arrêter d'être juste assis et d'être sur le cruise control jusqu'à ce que j'entre dans la présence de Dieu. Jusqu'à temps que je rejoigne mon sauveur, je vais être comme Caleb et dire, Seigneur, mets un feu dans mon cœur. Mets un feu en moi pour te servir. Mets un feu en moi pour contribuer à m'investir dans les visionnaires, à entourer les visionnaires, à encourager les visionnaires, à bâtir avec eux, à me battre dans la prière, à me battre spirituellement pour que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu bâtisses une maison ici à Nouvelle-Vie, Québec, de rêveurs et de visionnaires, les deux ensemble, main dans la main, pour bâtir ta maison et tous ceux qui le croient et qui le prient avec moi, disent un dernier grand Amen et Amen par la foi. Ce matin, ça va être notre témoignage, les visionnaires et les rêveurs. Puis on va chanter ce chant ce matin qui dit « Tu restes le même, de génération en génération en génération, nous servons le Dieu qui reste le même. » On va chanter ensemble. Son amour qui dure à jamais, qui ne change pas. Elle chantait sa promesse qui ne change pas de génération en génération. Allez Seigneur, viens. Souffle Seigneur sur les visionnaires, sur les rêveurs ce matin. Visionnaires et rêveurs ensemble. On a besoin de toi Seigneur. Viens faire ton œuvre en nous, Seigneur. Viens faire ton œuvre dans toutes les générations ce matin. On chante ensemble.